Chapitre 21. Bien que de nature curieuse, la comtesse n'a pas osé prendre place près de la vitre. Elle a laissé Eustasio s'y installer. Il aura fallu s'armer de patience pour y accéder, et chaque siège de l'étrange petit wagon est occupé. Les passagers qui ont la chance d'avoir embarqué commandent déjà ce qu'ils s'apprêtent à vivre. Ils ont hâte, autant pour l'expérience que pour raconter qu'ils y étaient. Depuis l'inauguration, Madame de Vignolles et Eustasio passent leur temps disponible à visiter les différents pavillons de l'exposition, mais jusqu'à aujourd'hui, jamais encore ils n'étaient montés sur l'immense tour métallique de 300 mètres. La manifestation est propice aux rencontres. Lorsqu'elle croise une de ses connaissances, la comtesse présente Eustasio comme un jeune noble italien venu découvrir Paris. Les femmes ne manquent pas de minauder devant ce bel étranger doté d'un physique avantageux et d'un accent charmant. Ces dames admirent sa maîtrise de la langue tout en le dévorant des yeux. Les hommes cherchent immédiatement à évaluer sa fortune, seul terrain sur lequel ils ont une chance de lui reprendre l'avantage. Combien faut-il d'actions de la Compagnie des Mines du Brésil pour surpasser une ligne d'épaule aussi séduisante? La comtesse a pris soin d'expliquer à son protégé comment se comporter devant ces individus. Plutôt que de lui souffler ce qu'il convient de dire, elle lui a surtout conseillé de se taire. Dans cette bonne société, chaque information saisie devient une arme. Chaque révélation happée est une prise de pouvoir. Lors de ces joutes feutrées, il convient de conserver une attitude légèrement distante, de donner des réponses générales et de tourner des compliments faciles sans jamais se départir d'un sourire idéal. Celui de Stasio est parfait, lumineux et viril, mais il n'a pas l'habitude de l'offrir autrement que spontanément. Alors qu'il se plaignait d'avoir à le forcer, la comtesse lui a suggéré d'imaginer que c'était à elle qu'il l'adressait. Depuis, le sourire ravageur du bel Italien fait merveille. En public, il l'appelle « Madame la comtesse » et lui est duc de Perenotte. Quand ils sont à l'abri des oreilles indiscrètes, ils ne sont plus qu'Hortense et Eustasio. Eustasio apprécie plus que tout les moments où ils ne sont qu'un couple comme tant d'autres au milieu de la foule des curieux. Il aime que personne ne les distingue. Être anonyme au grand jour, pour vivre leur lien particulier sans avoir à jouer un rôle. Il a eu beaucoup de mal à accepter que sa belle lui offre les superbes habits qu'il porte. Il a d'ailleurs promis de les lui rembourser jusqu'à ses boutons de manchette et son épingle à cravate. Le départ est imminent. Un opérateur referme les portes après avoir souhaité à tous une bonne ascension au nom de Monsieur Gustave Eiffel. On raconte que souvent, c'est le grand homme lui-même qui accueille ses visiteurs. L'opérateur fait signe au machiniste assis à l'extérieur de la cabine et le voyage commence. Le roulement des câbles produit un ronflement sourd et continu. La cabine s'élève le long du pilier est. L'entrelac de poutrelles rivetées au cœur duquel ce vaisseau du futur évolue sans à-coup ne gêne pas pour voir les environs. Depuis son ouverture au public, il n'existe aucun autre endroit au monde dont on parle davantage. La tour Eiffel attire les foules et s'impose déjà comme l'attraction majeure de cette exposition universelle. Grâce à elle et à ses lumières, Paris rayonne dans tous les sens du terme. De tous les pays d'Europe et même des Amériques, en bateau, en train, à cheval, on se précipite pour la découvrir, ainsi que les autres merveilles qui s'étalent à ses pieds. Invention révolutionnaire, matière précieuse venue du bout du monde, prodige de la science, produits manufacturés d'un luxe inouï, machines fabuleuses, nouvelles énergies, c'est un festival qui réinvente la civilisation. La cabine a déjà dépassé la cime des arbres et semble désormais s'envoler au-dessus des toits des immeubles les plus hauts. La sensation d'altitude est saisissante. Il paraît qu'imperceptiblement, après le premier étage, l'inclinaison de l'appareil compense la courbe de la jambe du monument. Un exploit technique de plus pour cette construction hors norme qui les accumule. Paris se révèle peu à peu sous un angle inédit. Le mouvement d'ascension modifie continuellement la perception de la ville, dont chaque bâtiment rapetisse, alors qu'à l'inverse, la cité dans son ensemble ne cesse de s'étendre en même temps que s'ouvre l'horizon. Impressionnée, Hortense respire fort. Discrètement, elle se serre contre son chevalier servant, qui le remarque. Bien que la vue le fascine, ce rapprochement le distrait du spectacle. Il se situe à présent à une hauteur inédite. Peu d'humains peuvent se vanter d'être montés aussi haut, et ils ne font qu'arriver au premier étage de la structure. La cabine ralentit et s'immobilise. Les portes s'ouvrent, et les voyageurs descendent se disperser sur l'immense terrasse. Même si l'endroit propose un théâtre, différents restaurants ou des bars, tous les plus hauts du monde, chacun se presse d'abord vers les rambardes pour admirer la vue. Dans sa longue robe d'après-midi, la comtesse paraît glisser sur le plancher. Face au spectacle grandiose, les exclamations fusent. Il n'y a que les oiseaux et les téméraires qui s'aventurent dans les nacelles des ballons captifs à gaz pour s'offrir cette imprenable perspective. Le cœur de Madame de Vignolles bat la chamade. L'expression « avoir Paris à ses pieds » prend ici tout son sens, et nul besoin d'être une vedette, un roi ou un président pour la faire sienne. Eustasio saisit la balustrade. Vue d'ici, la Seine, pourtant si large, passerait presque pour une rivière, et le palais du Trocadéro n'est pas plus grand qu'un cirque. De cette hauteur, la ville se lit comme un plan. « Ne te penche pas, » lance la comtesse restée en retrait, « j'ai si peur que tu tombes. » Il se tourne vers elle. « Auriez-vous le vertige, vous si courageuse ?» Il lui tend la main. Elle la saisit et se laisse guider. Les voilà côte à côte, appuyés à la rambarde. « Je n'ai jamais rien vécu d'aussi fabuleux, » murmure-t-elle grisée. Le visage rafraîchi par le vent, ébloui par la lumière, Hortense ne sait plus où porter son regard tant il y a à voir. Elle distingue nettement le Sacré-Cœur en construction, Notre-Dame, et même l'Arc de Triomphe. Enthousiaste comme une enfant, elle les désigne à Eustasio. Ces hauts lieux paraissent si proches qu'il semble possible de les rejoindre en quelques pas de géant dans un décor de Lilliputien. La comtesse en est certaine, elle aperçoit même son avenue. Tout à coup, une bourrasque l'oblige à retenir sa capeline ornée de plumes et de rubans de satin. Eustasio manque lui aussi de perdre son couvre-chef. L'incident les fait rire. Une casquette aurait mieux résisté, mais Hortense a insisté pour qu'il porte un haut de forme, en homme élégant. Ensemble, ils commencent à parcourir le périmètre pour faire le tour des vues offertes. Le panorama qui s'offre à eux paraît n'avoir aucune limite. Bientôt, ils dominent toute l'exposition, une ville dans la ville, ou plutôt un monde entier dans la plus spectaculaire des capitales. Quand on songe que tout cela n'existera que pour quelques mois, on éprouve un vertige de plus. De leur terrasse, Hortense et Eustasio aperçoivent même la monumentale section installée aux Invalides et majoritairement consacrée aux armées. D'ici, on embrasse toute l'ampleur de la manifestation et il est aisé de comprendre que Londres et Berlin soient jalouses. Même New York se montre envieuse. Les centaines de drapeaux et d'oriflammes multicolores qui ornent les mâts ondulent dans la brise et animent l'incroyable déploiement architectural proposé aux curieux. Si les industries déploient leurs plus beaux fleurons, le passé et l'histoire n'ont pas été oubliés. Au pied de la tour, des quartiers entiers de villes exotiques ont été recréés. On aperçoit ainsi une rue d'Orient, une autre de l'Est, du Grand Nord ou d'Afrique. Tout ce que le globe compte de nations, de puissances économiques ou politiques est représenté par différents pavillons qui rivalisent de grandeur pour se faire connaître sous leurs meilleurs jours. À l'extrémité du Champ de Mars, juste après le hall central et la galerie des manufactures, se dresse la gigantesque galerie des machines, le plus vaste bâtiment jamais construit dans l'histoire de l'humanité. Ses hautes cheminées d'angle crachent une fumée dense et blanche, symbole de la puissance du progrès. Vue de si haut, la foule en contrebas ressemble à une colonie de fourmis. Alors que les deux amants s'en amusent, un homme se présente à eux et s'incline respectueusement devant la comtesse. « Mes hommages, madame. » Devant la perplexité de son interlocutrice, il précise « Nous nous sommes rencontrés à l'automne dernier chez Monsieur Fauvel. C'est lui qui a fourni la majeure partie des vitres qui équipent les aménagements de cette tour. Je suis Bertrand de Montereuil et je suis son associé depuis peu. Hortense lui abandonne sa main gantée qu'il honore dans une parfaite maîtrise des usages. Ces nouveaux verres plats, si résistants qu'une pierre jetée contre eux ne les briserait pas, contribuent grandement au succès de l'édifice, reprend-il. Si Madame la Comtesse n'y entend rien, Monsieur est peut-être intéressé d'y investir. Eustasio ne sait comment réagir. Le dernier des noblios endimanchés s'exprime avec plus d'aisance que lui. Entre son chapeau qu'il ne sait pas tenir et ses souliers qui lui font mal, il ne fait décidément pas le poids. Après tout, Hortense serait aussi bien au bras de ce Bertrand. Elle aurait tout autant d'allure et lui ne resterait pas sans voix au risque de la desservir. Devinant sa gêne, la comtesse intervient. « Merci, cher Bertrand, je vous souhaite tout le succès possible dans cette nouvelle entreprise. Mon ami est un duc italien et ses affaires ne sont ni dans le verre ni dans l'acier. » L'homme s'incline respectueusement et se retire sans insister. « Une fois encore, vous m'avez sauvé, » la remercie Eustasio. « Je suis indigne de vous. » « Je t'en prie, ne place pas d'orgueil là où il ne te manque encore qu'un peu de pratique. » J'enrage de ne pas être de votre rang. Tout serait alors plus facile. Le rang ne fait pas l'homme, Eustasio. Sinon, ces petits princes auraient moins de mal à séduire autrement qu'avec leur portefeuille. D'ailleurs, celui-là travaille désormais pour un roturier. Viens, quittons cet endroit.